Les méthodes de certains laboratoires sont parfois troubles.
Leur dernière étude révèle les cadeaux offerts par les laboratoires aux professionnels de santé, avec un chiffre 244 millions.
Certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies, uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments.
Parmi les impondérables des sites de santé dits alternatifs, on trouve régulièrement tel ou tel traitement contre le cancer, le VIH, Alzheimer ou le lumbago qui aurait été dissimulé par l'industrie pharmaceutique, préférant de loin écouler à prix d'or des médicaments toxiques plutôt que de guérir la population humaine. Cette pensée, c'est celle du Big Pharma, une entente mondiale de tous les laboratoires qui œuvrerait dans l'ombre pour maximiser ses gains sur le dos de l'humanité, le tout en prenant soin de discréditer, si ce n'est faire disparaître, les autres formes de traitement dites alternatives ou traditionnelles qui auraient pourtant fait leurs preuves depuis des siècles. Bonjour Boris Auret.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche INSERM à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques sont aux mains du Big Pharma ?
Non, je pense que c'est une pensée qui vraiment simplifie à l'extrême une situation complexe qui est liée en fait au rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'innovation médicale. Il est vrai, par contre, que les industries pharmaceutiques financent et contrôlent souvent une grande partie des essais qui sont menés sur les médicaments. Et ça a plusieurs conséquences. D'une part, certains ont prouvé que ça peut entraîner des biais dans les savoirs qui sont produits à travers des choix de protocole, la décision de publier ou ne pas publier les résultats d'un essai, choisir un comparateur pour un essai qui va pas être le plus performant, on va l'administrer à une dose sous-optimale, ce qui va permettre de présenter de manière plus favorable notre nouveau traitement. On peut faire tout un ensemble de décisions comme ça dans un essai qui vont pouvoir produire des résultats un peu trop favorables aux nouveaux médicaments. Et c'est surtout cette question aussi de la publication ou de la non-publication de certains essais qui est extrêmement débattue. Hein, parce que ça conduit quelque part à des consensus sur tel ou tel traitement qui peuvent être biaisés parce que, de facto, les résultats négatifs auront été beaucoup moins diffusés.
D'où vient cette idée qu'il y aurait une entente internationale secrète entre les laboratoires pharmaceutiques ? D'où elle naît ?
La bascule, on peut dire, elle se situe à peu près dans les années 80 où on commence... En fait, il y a un rapprochement important qui se fait entre la recherche académique et la recherche industrielle, avec un investissement massif des industries dans la recherche et puis aussi des injonctions envers les chercheurs académiques à se rapprocher aussi des industriels. Et petit à petit, on va voir donc cette question qui va émerger des conflits d'intérêts, hein, des chercheurs. La réponse qui va être apportée à cette question des conflits d'intérêts, ça va être globalement l'instauration de ce qu'on peut appeler des dispositifs de transparence, hein, qui vont consister à demander aux auteurs d'articles ou aux experts à déclarer leurs intérêts. Certes, ça a permis quelque part une prise de conscience, hein, de l'existence de ces liens, mais ça ne les supprime pas. Hein, et du coup, quelque part, on objectise des liens sans résoudre vraiment le problème.
Cette question du Big Pharma, elle est aussi liée à un certain nombre de scandales qui ont entaché l'industrie du médicament. Quels sont-ils et pourquoi est-ce que ça conduit à cette pensée qu'il y a une entente, encore une fois, secrète ?
Là, c'est une bascule qui s'est opérée peut-être dans le début des années 2000, qui a renforcé, on va dire, cette inquiétude envers le Big Pharma. C'est-à-dire tout un ensemble de retraits de médicaments ou de controverses. Et les procès qui ont été menés, notamment aux États-Unis, suite à ces controverses, ont conduit à révéler et à prendre conscience du fait que, effectivement, les industriels avaient parfois caché des résultats, parfois biaisé d'une certaine manière les savoirs. Et donc, ça a renforcé cette inquiétude et cette idée d'une influence qui serait démesurée des industriels.
Est-ce que l'industrie pharmaceutique est moins vertueuse que n'importe quelle autre industrie ? Est-ce qu'il y a un cas particulier qui est lié à l'industrie pharmaceutique ?
Le médicament reste, par rapport à d'autres produits, un des médicaments les plus contrôlés. Hein. Et il n'en reste pas moins que, effectivement, l'industrie pharmaceutique est une industrie très puissante. C'est-à-dire qu'un seul médicament peut représenter des bénéfices extrêmement importants, conduit forcément à ce qu'il y ait des stratégies commerciales qui soient allouées à ce produit. Donc, effectivement, il y a quand même des stratégies très poussées, on va dire, des industries pharmaceutiques.
Il y a quelque chose qui est relativement mal compris et qui entretient cette idée ou ce fantasme du Big Pharma, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure, Boris Auret, celui des liens d'intérêt. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le milieu de la recherche académique, que les médecins ont intérêt, dans un autre sens du terme, à travailler avec l'industrie pharmaceutique, que l'industrie pharmaceutique a besoin de ces retours sur ces ces médicaments pour pouvoir mettre au point ces nouvelles molécules. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est la différence entre un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt?
On parle de lien plutôt pour qualifier dans une déclaration, par exemple, l'existence d'un échange financier, on va dire, entre un individu et l'industrie. Et on va parler de conflit à partir du moment où on va juger que ce lien, effectivement, est en jeu dans la décision qu'il a à prendre. Et donc, il y a une pertinence, on va dire, de ce lien.
Qu'est-ce que serait un lien d'intérêt par rapport à un conflit d'intérêt pour un médecin, notamment?
Dans une déclaration d'intérêt où on va indiquer tous les liens, par exemple, qu'il ait travaillé,
le laboratoire X.
Oui, ou même dans un autre domaine que celui pharmaceutique. Ce serait un lien, mais qui n'aurait aucune pertinence par rapport à une décision qui aura à voir soit un tout autre domaine thérapeutique ou même dans un autre domaine. Donc, faut pas non plus solidifier à l'extrême cette différence. La question, c'est bien celle des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, les liens ne sont intéressants qu'à partir du moment où ils posent des problèmes de conflits d'intérêts. Et encore une fois, c'est assez large. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette idée de Big Pharma, on l'a dit dès le début, elle simplifie quelque chose de complexe. Et notamment sur ces questions des conflits d'intérêts, il faut en fait penser les choses avec complexité pour distinguer en fait des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Effectivement, on peut estimer que, étant donné les structures actuelles de la financement de la recherche clinique, il est complètement légitime qu'un médecin participe à une recherche et du coup à un rapport de coopération avec une firme. Après, c'est pas exactement la même chose si ce même médecin, par exemple, est consultant pour l'industriel ou membre d'un comité de direction d'une industrie. Donc, vous voyez, c'est un lien financier, un conflit d'intérêt, mais qui est pas du tout de la même nature. De la même manière, on peut s'interroger sur la présence des laboratoires au sein des hôpitaux, par exemple avec les visiteurs médicaux. Et cette présence-là, on va dire, des visiteurs médicaux au sein des hôpitaux, elle est de plus en plus discutée, parce que là, on pourrait dire, tout simplement, on pourrait, après tout,
c'est de la publicité.
La supprimer. Oui, dire. C'est pas la même chose que vous voyez que le premier élément où quelque part, il faut effectivement qu'il y ait une participation de médecins à la recherche. Un autre élément dans cet ordre d'esprit, c'est par exemple le financement par les industriels, la participation des médecins au congrès. On peut dire ça crée tout un ensemble de situations.
En payant des billets d'avion,
l'inscription à la conférence, qui est souvent assez chère. Et ça, évidemment, ça pose des problèmes de conflit d'intérêt, parce que quelque part, il va y avoir un lien financier entre le médecin et l'industriel, et on pourrait dire que ça pourrait être résolu par un plus grand financement public de cette participation, par exemple.
Deux questions pour conclure, Boris Auret. Déjà, d'une part, est-ce que cette théorie du complot autour du Big Pharma signifie qu'il faut implémenter plus d'éthique dans les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, tout en sachant que plus on essaye de rendre les pratiques transparentes, plus cette transparence, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, a tendance à entretenir l'idée du Big Pharma et de multiples liens et conflits d'intérêts.
D'une certaine manière, c'est cette idée du complot du Big Pharma. Elle implique aussi un petit peu l'idée que, quelque part, le monde médical sera un peu l'objet des stratégies industriel, l'objet passif. Et c'est pas du tout le cas. On voit quand même que depuis une dizaine d'années, tous les acteurs du champ de la médecine ont développé tout un ensemble d'encadrements plus forts de ces liens, ont aussi accru leur transparence. Certaines agences, comme l'Agence européenne, par exemple, permettent un accès aux données brutes des essais. Il y a des acteurs mobilisés, comme par exemple, on parle souvent de la revue Prescrire en France, qui comme fournit aux médecins une information indépendante sur les médicaments. Il y a des collectifs comme le Forum Indep qui se bat, qui a fait annuler certain nombre de recommandations de la HAS à cause de problèmes de conflit d'intérêts. Donc, on ne peut pas dire que cette transparence soit négative. Les gens s'en saisissent, ça fait avancer les choses, les institutions se réforment et le monde de la médecine prend de plus en plus conscience quand même de ces questions-là.
Et dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique constituée en tant que lobby a de facto les moyens de cacher des remèdes qui seraient des remèdes universels, type contre le cancer ou contre tout autre type de maladie, parce que vendre des médicaments représente plus de bénéfices financiers.
Encore une fois, dans la mine de mes connaissances, je pense que là, on est vraiment dans un mythe, dans le sens où je pense que les intérêts de l'industrie, c'est bien évidemment de commercialiser quand même des médicaments qui fonctionnent, et quand même, la logique d'ensemble de cette industrie est bien celle-là. Rien ne peut me permettre de penser ça, vraiment.
Merci beaucoup, Boris Auret. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche INSERM à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.